Chapitre 57. Pousset. Dimanche, 20 août 2000, 1h12, camp de la presqu'île sauvage, île de Morne-Saye. L'ombre des cauchemars de mon enfance avança à pas feutrés vers mon lit, se pencha vers moi. Elle devait croire que je dormais, comme toujours, comme chaque nuit, depuis 10 ans. Elle secoua mon duvet, veillant à faire le moins de bruit possible. Elle chuchota. « Colin ! Colin !» Elle devait craindre que je me réveille en sursaut, que je crie, que je réveille mes compagnons de dortoir. Elle ne savait pas que je l'avais reconnue, que je l'attendais. « Colin ! Chut ! C'est Thierry !» Thierry, bien entendu. Thierry, qui toutes ces années, depuis que j'avais 6 ans, depuis que j'étais en âge de me souvenir, marchait dans le couloir à côté de ma chambre, vérifiait si je dormais, veillait sur moi, aurait pensé n'importe quel enfant normal, que la présence d'un adulte familier aurait rassuré. Mais non. Toutes ces années, jamais je n'avais eu l'impression qu'il me veillait. Il me surveillait. Il ne montait pas la garde autour de ma chambre. Il rôdait. Étais-je injuste ? Non. Je ressentais cette méfiance au plus profond de moi. « Colin, c'est ton oncle. Réveille-toi. » J'ouvris enfin les yeux et je les frottais comme s'ils étaient profondément engourdis. Je jouais les étonnés. « Thierry ? Colin ne fait aucun bruit. Écoute-moi, c'est important. Je ne t'ai pas tout dit tout à l'heure. Des détails qui ne concernent que toi et moi. » Je le regardais en essayant d'imiter les yeux de hibou d'Armand. « Colin !» continuait de chuchoter mon oncle. « Il faut que tu te lèves tout de suite, que tu t'habilles et que tu me suives, c'est important. Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. » C'était un piège. Il voulait m'attirer dehors, seul, la nuit, loin de la police et de l'agitation du camp. Thierry chuchotait encore. « Il faut que tu me suives, si tu veux tout comprendre. » C'était un piège grossier. Mais je n'avais pas le choix si je voulais connaître la vérité, si je voulais savoir qui me mentait, quelle logique se cachait derrière cette série d'événements délirants. Il fallait que je le suive. Peu importe si je risquais ma vie, peu importe si je ne revenais pas. Thierry n'eut pas besoin d'en rajouter. Je sautai souplement de mon lit. J'enfilai une nouvelle fois mon pantacourt crasseux et mon t-shirt qui puait depuis 2 jours la transpiration de mes courses et de mes peurs.
« Tu seras plus en sécurité avec moi, » insista Thierry. « Tu seras plus en sécurité qu'ici. »
J'avais envie de lui dire qu'il n'avait pas besoin de se fatiguer à me rassurer. Je le suivais de toute façon, même si je n'étais pas dupe. Nous marchâmes à pas de loup jusqu'au bord de la tente marabout. Thierry se retourna vers moi et me lança un sourire complice.
« Le veilleur qui fait sa ronde passe devant la tente toutes les 7 minutes. Il ne devrait pas tarder à arriver. Aussitôt après, on fonce. »
Nous attendîmes donc quelques longues minutes le passage du policier chargé d'assurer la sécurité dans le camp. Je sentais près de moi le corps de Thierry, sa respiration lente, retenue, tel un chasseur. Sa main qui cherchait à m'attraper, un bras, une épaule, ma main. Non pas pour me rassurer, oh que non, pour s'assurer que j'allais le suivre. Je réfléchissais. J'allais de mon plein gré me jeter dans l'inconnu, fuir de moi-même ce camp où se trouvaient tous ceux qui pouvaient me protéger. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je sache, que je retrouve mon père, qu'il m'explique. Pourtant, malgré moi, la peur me gagnait petit à petit. Où allait-il m'emmener ? Et si je réussissais à prévenir quelqu'un ? Avant de partir, laisser une marque, un signe ? Prévenir Maddy ou Armand ? Mais comment y parvenir sans que Thierry s'en aperçoive ? Au loin, dans la cour, la lumière d'une puissante torche sortit de la salle de réunion. Le veilleur. Il fallait que je trouve une idée, vite. Instinctivement, je fouillais les poches sales de mon pantacourt. Je sentis quelques vieux papiers chiffonnés, une pièce de monnaie, et le couteau offert par Maddy. Qu'en faire ? Un improbable plan germa dans ma tête, mais je n'avais plus le temps. Le veilleur passa à quelques mètres de nous. Il éclaira la tente, mais Thierry avait pris soin de refermer la toile et de se reculer. Déjà, il nous tournait le dos. Thierry était occupé à l'observer à travers une petite ouverture dans la toile. De ma main droite, j'avais ouvert l'opinel le long de ma jambe, dans l'obscurité. Le lit d'Armand était à moins de 3 mètres. Nous avions joué pendant plusieurs jours à la pichenette, ce jeu stupide qui consiste à planter un couteau par terre entre les jambes écartées de ses adversaires. J'étais entraîné. Un peu.
Maintenant !
Mimant une perte d'équilibre, je donnais un coup de pied sur les lattes de bois qui servaient de plancher au marabout, et, dans le même moment, Je lançai l'opinel, presque à l'aveugle, le plus près possible du lit d'Armand. Le petit bruit sec de la lame qui se plante dans le parquet résonna, en très léger écho à mon coup de pied, mais Thierry ne pouvait pas l'avoir entendu. Il se tourna vers moi et retint son exaspération. « Chut !» Il écouta un instant les respirations pour vérifier que je n'avais réveillé personne, puis se retourna vers la cour du camp. Le veilleur devait être assez loin désormais.
« On fonce !» me fit Thierry. « On passe derrière les arbres, direction l'entrée de la ferme !»
Je connaissais le chemin, mais Thierry l'ignorait et m'ouvrit la voie. La cour du camp était éclairée de plusieurs réverbères improvisés. Dans le court instant où il ouvrit la toile de tente pour sortir, une légère luminosité s'infiltra sous le marabout.
« Maintenant !»
Au moment où, de la main droite, j'attrapais la toile de tente, je visais de la main gauche, avec la pièce de monnaie, le visage endormi d'Armand. Je sortis. La pièce n'avait fait aucun bruit. Elle avait dû tomber sur le lit. J'avais cru l'avoir heurté la joue d'Armand, peut-être, mais tout s'était déroulé trop vite. Je suivis Thierry. J'avais laissé moins de 2 mètres entre lui et moi. Il ne s'était aperçu de rien. Peut-être aurais-je pu prendre davantage de temps pour assurer mon tir. Trop tard pour les regrets. Nous nous échappâmes sans difficulté du camp, dans l'obscurité. Les flics avaient pour mission de veiller à ce que personne n'entre, pas à ce que personne ne sorte dans leur dos. Nous marchâmes sans un mot, côte à côte, sur le chemin de ferme. Thierry alluma une lampe torche. Il marchait très vite, mais je n'avais aucune peine à le suivre. Nous arrivâmes rapidement au grand carrefour. À gauche, la route de l'abbaye jusqu'à Saint-Argan. À droite, la citadelle. Tout droit, par le sentier, à moins 1 kilomètre, les ruines de l'abbaye Saint-Antoine. Le croisement était éclairé par un réverbère. Thierry s'arrêta plusieurs mètres avant le carrefour et tendit le bras pour me faire signe d'attendre. Il ne voulait pas que l'on se fasse repérer. Des voitures pouvaient passer pendant que l'on s'approchait du carrefour. Il guetta une nouvelle fois les sons de la nuit, essayant d'identifier un éventuel bruit de moteur au loin. Mais à cette heure, la route semblait déserte. Comme à l'habitude, la une de Lilien du lendemain matin était accrochée au réverbère de l'île, dont celui du croisement. L'affiche était parfaitement éclairée. Le titre était explicite, terrible. « Il y a 10 ans, le drame des sanguinaires. 3 ouvriers y laissent la vie, 3 responsables disparus depuis. » Sous le titre, la première page était illustrée de 3 photographies, des gros plans, en noir et blanc. Je reconnus à gauche le portrait de Jean-Louis Valerino. Au centre, la photographie de mon père. À droite, la photographie d'un homme que je ne connaissais pas, ou que j'avais peut-être aperçu sur les photos du repas dans les ruines de l'abbaye ou sur le film, mais toujours de dos, flou, jamais de face ou en gros plan. Qui était-ce? Ce fameux Maxime Prieur, le grand ami de mon père? Thierry fit un petit signe de la main pour me signifier qu'on pouvait y aller. Je ne bougeais pas. Le portrait de cet inconnu à droite m'intriguait. J'avais déjà vu cet homme quelque part. Quelque part enfoui sous le traumatisme de mes 6 ans. Évidemment, j'avais croisé ce Maxime Prieur tous les jours pendant les 6 premières années de ma vie. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui clochait dans mes souvenirs. Quelque chose qui ne s'emboîtait pas. Thierry perçut mon embarras. Tout de suite, il se retourna vers l'affiche de Lilien. Il resta un instant stupéfait. Je crus que lui aussi avait croisé un revenant. Je sentis qu'il hésitait à arracher l'affiche, mais il craignit sans doute d'aiguiser encore un peu plus ma curiosité.
« On traverse, Colin, vite !» me chuchota-t-il.
Quelque chose n'allait pas sur cette affiche. Quelque chose de profondément incohérent. J'arrivais au carrefour. Bien entendu, on allait traverser, couper tout droit vers le sentier, vers les ruines de l'abbaye. Bien entendu. Thierry se coucha soudain et me fit signe de faire de même. Une voiture arrivait au loin. Elle passa, ralentissant à peine au carrefour. Thierry épia à nouveau les bruits de la nuit. J'en profitai pour essayer de faire le point. Une réflexion me glaça le sang. Au cas où, par miracle, ma pièce de monnaie était parvenue à réveiller Armand, au cas où il aurait compris mon appel au secours en découvrant l'opinel planté, jamais il ne pourrait me retrouver. Comment pourrait-il découvrir où mon oncle m'emmenait? Il me fallait trouver une idée, une autre, plus vite encore. Une nouvelle fois, je fouillai mes poches. Il n'y avait plus que ces vieux papiers. Ces vieux papiers? J'en extirpai un discrètement. Les morceaux de crépon rouge ramassés sur le jeu de piste il y a 2 jours. Je jubilais. Maddy et Armand ne pourraient pas les manquer, ne pas comprendre. Thierry se retourna.
« Vite, Colin, on traverse !»
Je le suivis. J'avais laissé tomber sur le bord de la route un petit ruban de crépon rouge. Devant l'affiche de Lilien, je posais à nouveau un morceau de crépon sur le rebord supérieur. Il n'y avait pas de vent, ou très peu. Avec de la chance, il ne s'envolerait pas. Je traversai la route et je suivis Thierry sur le sentier de l'abbaye. Les trois portraits de la une de Lilien m'obsédaient. Des souvenirs d'avant mes 6 ans me revenaient. Comme des nuages qui s'écartent devant le soleil. Ce portrait, à droite de l'affiche, ce visage inconnu, avait provoqué une sorte de déclic. Je marchais dans le noir. La lumière de la torche de Thierry dansait devant moi. Ce visage inconnu, désormais, je le reconnaissais. Il était lui aussi assis à la table, lors de ce repas dans les ruines de l'abbaye. Il me regardait jouer, lui aussi. C'était... Mon cœur s'emballait. Étais-je en train de devenir fou? C'était... L'image était nette maintenant. Il n'y avait plus d'erreur possible. C'était lui, sans aucun doute. Et pourtant, je savais bien que c'était impossible.